Il m'a été demandé de prêcher sur le sujet suivant, la paix et la joie. C'est un beau sujet, mais j'ai failli ne pas le faire, pour tout vous dire, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne sais pas prêcher sur commande. Pour moi, la prédication, c'est le bonheur, la joie, l'enthousiasme de partager avec ceux qui le veulent bien ma découverte du moment, un texte qui m'a enthousiasmé, quelque chose qui m'a fait vivre, qui m'a motivé. Et prêcher sur commande, c'est pas plus facile que de faire l'amour sur commande, c'est pas trop ma façon de faire. L'autre chose, c'est que je sais prêcher sur un texte biblique et commenter un texte, essayer de montrer en quoi ce texte peut être lu d'une façon peut-être différente de l'habitude, comment on peut en tirer quelque chose. Mais je n'aime pas trop les prédications conférences sur un thème, parce que ce que j'aime donc, c'est de partager un texte et pas de faire des leçons de morale ou de philosophie. Et donc, c'est une deuxième bonne raison. La troisième raison est beaucoup plus grave, et je vous la dirai tout à l'heure. Mais en fait, je le fais quand même. La paix et la joie, pourquoi ? Parce que la personne qui me l'a demandé, c'est donc ma mère, qui fête aujourd'hui ses 97 ans, le 17 mars, et elle m'a dit « Je voudrais que tu prêches sur la paix et la joie ». Comme on m'a appris qu'il fallait obéir à ses parents, bon, ben, j'étais bien un peu obligé de le faire. Et puis, comme l'Écriture dit qu'il faut honorer son père et sa mère, mon père n'est plus, ma mère est là, j'en rends grâce. Et donc, j'ai voulu l'honorer en essayant de faire ce qu'elle voulait. Mais je ne suis pas sûr de le faire vraiment bien parce que, en fait, la troisième raison pour laquelle j'étais gêné à faire une prédication sur la paix et sur la joie, c'est la suivante. C'est que la paix et la joie sont très agréables et ça me plaît bien. J'aime effectivement qu'on me fiche la paix, je serai prévenu. Et je suis pour la joie, c'est nettement mieux que la tristesse, donc je suis tout à fait pour la paix et pour la joie. Mais je crois aussi d'ailleurs que la paix et la joie sont des choses que peuvent donner la foi, vraiment, oui. Il y a dans la foi, dans la prière, dans la vie spirituelle, pardon, dans la vie chrétienne en général, des sources réelles de paix profonde et de joie essentielle. Mais ce qui me gêne, c'est ça, c'est que finalement, je ne crois pas que ni la paix ni la joie ne soient des valeurs ultimes ou essentielles. Je crois que ça n'est pas l'essentiel de la vie, pour tout vous dire. Alors, là-dessus, j'en suis aussi un peu redevable à mes parents. J'ai eu une éducation calviniste et on m'a expliqué que le but de la vie, c'était pas de se faire plaisir, ni d'être bien tranquille, mais c'est le service. Voilà. Et donc, dire que le but ultime de la vie serait la paix et la joie, j'avoue que ça me gêne un peu parce que je n'y crois pas. Le but de la vie, c'est de servir et puis c'est tout. Et si on trouve en passage un peu de paix et un peu de joie, tant mieux. Bon, pas non plus cracher dans la soupe, hein, mais si on n'en trouve pas, c'est pas le problème, si vous voulez. C'est pas ça le but de la vie. Et si jamais on veut mettre la paix et la joie comme chose ultime de la vie, on tombe soit dans une sorte d'hédonisme, en disant l'important c'est que je me fasse plaisir, ou de modèle stoïcien, en montrant que l'essentiel c'est d'éviter à tout prix les problèmes. Et en fait, bon, on peut vivre comme ça, c'est un choix, mais si je regarde mon patron, Jésus-Christ, il n'était ni hédoniste, ni stoïcien. Il a donné sa vie pour nous, et je crois que, est-ce que sur la croix, il était en train de ricaner bêtement, en disant « c'est super, je suis vraiment en paix, c'est top », je crois pas. Est-ce qu'à Gethsémané, il était vraiment en joie, quand il dit « mon âme est triste jusqu'à la mort », est-ce que vraiment le but de sa vie, ça a été d'éviter les problèmes? Il aurait pu dire aux pharisiens, écoutez, c'est bon, on arrête là, j'arrête, je retire ce que j'ai dit, continuez vos affaires, fichez-moi la paix. Non, il est allé jusqu'au bout quand même. Hein. Et donc, je pense que, effectivement, l'Évangile ne pousse pas à ça. Et même quand ce que prêche Jésus, c'est une belle chose, quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ben, » c'est pas que c'est donné forcément, mais c'est donné comme en plus. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et si en plus vous avez de la joie et de la paix, tant mieux. Si vous avez en plus un peu de richesse, une bonne santé, de nombreux enfants remarquables, tant mieux pour vous, mais Après tout, est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Non. Donc l'ultime de sa vie, c'est le service, je crois, c'est le don, c'est la gratuite attention à l'autre, c'est de se rendre utile, et le reste n'est pas très important. Alors vous disais-je quand même, oui, je ne vais pas non plus dire le contraire, la foi apporte de la paix et de la joie, la foi est une, je crois, une vraie source de joie, en tout cas j'en témoigne, et on trouve dans la prière une vraie source de paix, mais la vie chrétienne, c'est pas de faire que prier tout le temps, hein, ni de se replier dans sa foi pour ne pas en sortir. La vie chrétienne, c'est d'aller dans le monde, et le monde n'est pas toujours un monde de foi, de prière, de bonté, de justice et de royaume de Dieu. Nous ne vivons pas dans le royaume de Dieu. Au contraire, nous vivons dans un monde, et nous sommes invités à combattre dans ce monde, à travailler pour la justice de Dieu, et ça, c'est un combat, un travail qu'on peut parfois payer au prix fort. Effectivement, je vous disais, Jésus qui a combattu pour ça, pour ce message, ne ricanait pas sur la croix, hein. Et il n'est pas mort comme Socrate en disant « mes amis, mes frères, je vais bientôt mourir, c'est formidable, je serai enfin libéré de ce monde », non. Et donc, voilà, c'est pas si simple. Et puis d'autre part, la joie me pose problème. J'ai une fois prêché là-dessus d'ailleurs, sur une prédication que j'avais intitulée « La tyrannie du bonheur », en disant, finalement, on nous explique toujours qu'il faut être heureux, et que si on n'est pas heureux, c'est un défaut d'espérance, voire un défaut de foi, et que c'est pas bien. Eh ben, je suis pas certain que la joie soit une obligation morale, pour tout vous dire. On n'est pas forcé de se sentir toujours heureux et en paix. Et si on l'est une fois de plus, tant mieux, mais on fait ce qu'on peut dans la vie. Et moi, je vois des gens qui n'arrivent pas à trouver du bonheur ou de la paix. Et si en plus on leur dit « tu as tort et tu es vraiment un ingrat de ne pas être heureux avec tout ce que tu as », on lui rajoute à son malheur de la culpabilité. « Bonjour ». Alors je veux dire, je ne peux pas dire aux gens « soyez heureux, soyez en paix ». Ben écoutez, moi je fais ce que je peux. Hein. Et c'est vrai que malheureusement, c'est ce qu'on entend parfois. Ou même on dit aux gens « écoutez, quand on voit toutes les chances que vous avez, vous devriez être heureux et vous devriez rendre grâce, remercier pour votre existence, pour la merveille de votre vie ». Ben, je suis pas certain. Si vous pouvez le faire, profitez-en, mais pas toujours. Et je ne veux pas en tout cas condamner à la double peine ceux qui ont du mal dans la vie. Voilà, tout simplement. Et puis, de toute façon, même la paix, ben, je suis désolé, je devais prêcher sur la paix et la joie, je prêche que contre, mais bon, ben, vous allez voir. Mais même la paix, ça va pas cette histoire, si vous voulez. Hein. Politiquement, on a reproché à Pétain d'avoir privilégié la paix, de dire on va s'arranger avec l'ennemi, pas de vagues, ne pas se battre. Eh ben c'est faux. Aujourd'hui, le recul de l'histoire fait dire qu'il a eu tort. Voilà, il fallait se battre contre le nazisme, mais c'est tout, c'est comme ça. Et donc la paix politique, on peut la souhaiter, mais pas à n'importe quel prix, je crois pas. Hein. Et dans notre vie aussi, on n'est pas tous confrontés au nazisme, hein, mais dans notre vie aussi, il y a des combats à mener. Et on doit s'engager dans le monde, on doit lutter contre les compromissions, on ne peut pas abandonner devant tout uniquement pour avoir la paix, quoi. Ça ne va pas. Et puis même par rapport à soi-même, est-ce que vraiment on peut être en paix? Admettons que j'arrive à peu près à être en paix parce que je me mêle des affaires de personne et que, bon, mais est-ce qu'on peut vraiment être en paix quand à notre porte il y a des enfants qui meurent de faim, quand à notre porte il y a des enfants qui meurent sous les bombes, que ce soit en Israël, en Palestine, en Ukraine, en Russie, j'en sais rien, mais en tout cas il y a quand même des tas de gens qui souffrent, et est-ce que je peux dire, moi je m'en fiche, je suis en paix, je suis tranquille, ça ne me regarde pas? Non, quand même, tout l'idéal du chrétien, c'est de compatir, et tant qu'il y a autour de moi des gens qui ne sont pas en paix, je ne serai pas en paix. Et l'idéal du chrétien, c'est de s'engager, c'est de se révolter, c'est de combattre inlassablement pour la justice. Alors ça, c'est ce verset sur lequel personne ne prêche. Jésus était globalement pour la paix, hein, je ne vais pas dire le contraire. Il était même à un demi-doigt d'être fondamentalement pacifiste. Mais il y a un verset sur les 100 sur la paix, il y en a un, où il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division. Alors on dira, ça y est, c'est un verset de violence. Bon, c'est un parmi cent, mais en même temps, il y a effectivement parfois des combats à mener et tout n'est pas supportable. Et puis encore, dernier argument contre, excusez-moi, mais j'en ai encore un. C'est que je ne suis même pas sûr que la paix et la joie soient compatibles. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils sont contradictoires. Parce que pour avoir la paix, trop souvent, il faut renoncer, subir, être victime finalement, laisser triompher le mal. Et ça, c'est pas gai, pour tout vous dire. Et inversement, la joie, c'est pas la paix. La joie, c'est un bouillonnement de l'âme. La joie, c'est pas le calme ni la tranquillité. La joie, c'est une émulsion vive. Et c'est tout à fait contraire à la paix de l'âme. Vous savez, les stoïciens, justement, qui, eux, alors, militaient pour la paix de l'âme, je simplifie, disaient l'idéal, c'est que l'âme soit comme un lac tranquille, sans aucune ride. Sous-entendu, sans joie ni peine. Si on commence à se préoccuper du cours du monde, de ce qui nous arrive, à être perméable aux sentiments, on n'est plus en paix. Et donc, si on est capable d'être joyeux avec ceux qui sont joyeux, on sera capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Eh bien, l'évangile n'est pas stoïcien. Hein. D'ailleurs, il y a un verset comme ça, où Jésus justement critique les autres. Il dit, vous êtes vraiment pénibles parce que, dit-il, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, et nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré avec nous. Et donc voilà, si on n'est pas capable d'avoir de la joie ou de pleurer même avec ceux qui pleurent, c'est pas qu'on est en paix, c'est qu'on n'est rien, tout simplement. La paix, c'est inefficace. La paix, c'est le rien, c'est le silence de la mort. Et quelqu'un, une fois, me disait, moi, tout ce que je veux, c'est être en paix et me reposer tranquille. Alors, je suis un peu brutal, ceux qui me connaissent le savent, je lui dis, mais vous aurez tout le repos éternel pour être en paix et tranquille. Donc, ne devancez pas les choses. Pour l'instant, on est dans le monde et on vit. Vivez dans le monde. Bon, mais je m'égare, pardon. Effectivement, j'ai promis un sermon sur la paix et la joie, et finalement, ça fait 10 minutes que je prêche contre. Mais en fait, peut-être que si je me suis égaré, c'est que, évidemment, la paix et la joie ne sont peut-être pas les valeurs ultimes de ce vers quoi il faut tendre, mais néanmoins, elles sont effectivement, et je le reconnais, absolument essentielles. Et absolument, je dirais, elles font partie du message de l'Évangile. D'ailleurs, il y a ce beau verset de Paul dans l'Épître aux Romains où il dit « Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie. » Voilà. Donc, il faut quand même en rendre compte. Et le royaume de Dieu, excusez-moi, mais c'est pas rien. Hein, le royaume de Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, ça nous dit que la paix et la joie, ce sont des choses absolument essentielles et fondamentales. Et si je me suis égaré jusqu'à présent, c'est sans doute que, en fait, j'ai parlé de paix et de joie extérieure, c'est-à-dire la paix, c'est pas forcément la paix politique ou la tranquillité matérielle. Et la joie dont il est question dans le royaume de Dieu, c'est pas l'amusement sur terre. On n'a pas tout et on doit parfois sacrifier la tranquillité pour travailler à la joie, etc. Mais dans le royaume de Dieu, c'est autre chose parce que le royaume de Dieu, c'est la paix intérieure. Et c'est une paix intérieure qui est au-delà du fait que l'on soit en paix ou en guerre politiquement, ou au-delà du fait que votre voisin de palier vous fasse un procès, c'est pas la question. C'est une paix du cœur, et ça c'est essentiel effectivement. Et puis la joie, c'est une joie profonde, un peu compliquée à expliquer, mais qui est au-delà du fait de rire ou de pleurer. C'est ce que dit cette béatitude compliquée. Je reprêcherai là-dessus un autre jour. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent ». Bizarre ça, mais pourtant oui, donc c'est pas tout à fait ce dont je parlais. Et la paix promise dans le royaume de Dieu, vous savez, c'est la promesse messianique. Depuis toute la Bible, on dit le Messie, il apportera la paix. C'est pour ça que les Juifs refusent Jésus comme Messie, parce qu'ils disent, quand le Messie vient, il y a la paix. Or, écoutez, il y a encore des guerres, donc c'est que Jésus n'était pas le Messie. S'il était le Messie, il n'y aurait plus de guerre. Et les chrétiens disent, mais non, il ne s'agit pas du tout de cette paix-là, ça n'a rien à voir, c'est pas cette paix matérielle, c'est la paix intérieure, la paix du cœur. Et ça, le Messie, le Christ, nous le donne, je crois. D'ailleurs, dans les promesses, on dit, dans Ésaïe, je crois, le loup habitera avec l'agneau et le lion vivra dans la même tanière que le nouveau-né sans le dévorer. Bon, c'est vrai que c'est pas d'actualité, les loups mangent toujours les agneaux et donc... De ce côté-là, ça n'a pas eu lieu, et je crois que ça n'aura jamais lieu. Les loups mangeront toujours les agneaux, et les lions mangeront toujours des gazelles. L'évangile, c'est pas de, comme certains véganes, ou je sais pas quoi, qui voudraient faire des modifications transgéniques pour que les lions ne mangent plus les gazelles, pour arriver dans le royaume de Dieu. Enfin, c'est n'importe quoi, si vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, ce que je crois, c'est que le loup vivra en paix avec l'agneau. Ça veut dire que par le Christ, on peut trouver au fond de soi-même une harmonie interne entre les différentes parties de notre être et qu'on puisse arrêter de se déchirer de l'intérieur. Et trouver, c'est ça la paix, trouver une harmonie au fond de soi-même, harmonie qui peut même intégrer des dissonances et même des désaccords, si vous voulez. Mais vous voyez que la paix et la joie peuvent être des valeurs spirituelles, intérieures. Et que quand Paul dit « le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie », c'est vrai, je crois que la paix et la joie, ce sont finalement les deux clés du royaume de Dieu. Ouais. Alors, ah oui, c'est quoi le royaume de Dieu d'ailleurs? Alors, le royaume de Dieu, comment puis-je vous dire ça? Je crois que c'est deux choses. C'est d'une part le monde idéal vers lequel nous voulons tendre. Alors, c'est pas que... On n'y arrivera jamais, mais le royaume de Dieu, c'est ce que l'on souhaite de tout cœur, c'est ce vers quoi nous tournons nos regards et ce pourquoi nous nous battons. Et donc, c'est la justice, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est la bonté, c'est la générosité, tout ce que l'on aimerait que le monde soit. Dans ce monde règne la violence, la haine, l'égoïsme, la vengeance. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est le royaume du pardon, de la fraternité, de la paix, de la joie. Voilà. Eh bien... Le chrétien est invité à être un ouvrier du royaume, à travailler dans les vignes du Seigneur pour que ce monde puisse donner, même localement, quelques fruits de justice, de paix, de fraternité et de joie. Donc le royaume de Dieu, c'est ce vers quoi nous tendons toute notre énergie, notre force, notre engagement dans ce monde. Et puis le royaume de Dieu, c'est aussi ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. C'est à un moment donné, vous savez, justement, quelqu'un qui demande à Jésus, et Jésus lui parle du royaume de Dieu et pose la question que vous voudriez poser en disant « Mais il est où le royaume de Dieu ?» Et Jésus a cette phrase étonnante, il dit « Le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. » C'est étonnant, donc c'est pas l'après-mort ou le paradis, je ne sais quoi. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'il y a au-dedans de vous. Et donc c'est tout ce qui en moi reconnaît Dieu comme roi, comme Seigneur et Sauveur. Et donc le royaume de Dieu, c'est toute cette partie de moi-même qui se met en relation avec Dieu, si vous voulez. Et donc c'est le sentiment religieux. Et si quelqu'un sait prier, si quelqu'un sait ce que c'est que ce sentiment religieux, cette relation à Dieu, tout le monde ne le ressent pas, mais beaucoup le ressentent dans le monde entier. Et si quelqu'un sait prier, ce royaume de Dieu, c'est ça, c'est cette présence de Dieu en soi-même. C'est être capable, prier, c'est se mettre dans les bras de Dieu, c'est pas réclamer ceci ou cela, c'est se mettre dans l'intimité avec Dieu et se dire là je me sens bien. Et dans la prière, dans ma foi, je me sens en tranquillité, je me sens paisible, je me sens rassuré. Comme cette phrase que j'aime beaucoup dans un des psaumes, il dit mon âme est en moi comme un petit enfant contre le sein de sa mère. C'est beau ça. Et donc ce recours à Dieu, si je prends le royaume comme ça, le royaume de Dieu c'est la paix et la joie, ce recours à Dieu, je le crois, produit une paix intérieure extrêmement profonde et produit justement aussi une joie profonde parce que je me sais aimé, accepté, pardonné, compris et que tout cela, je ne le mérite pas Seigneur, mais c'est donné gratuitement et donc je dis merci, merci, un merci joyeux. Joyeux que toi, Dieu, tu veuilles bien mettre dans mon cœur l'espérance et la paix que je ne mérite pas, que j'ai rien fait pour, mais merci, voilà. Et cette paix, cette joie, eh bien, je veux en rayonner. Et tout cela, c'est effectivement cette paix et cette joie du royaume de Dieu que je vis en moi. Et puis vous disais-je, bon, le royaume de Dieu, alors là, je parle pour ceux qui... Enfin, non, pour tout le monde. Première partie sur la foi, ceux qui l'ont pas, c'est pas grave, vous pouvez vous réveiller maintenant, parce que maintenant, ça concerne même ceux qui n'ont pas la foi. Le royaume de Dieu, vous disais-je, c'est aussi ce qui est devant nous, ce à quoi nous sommes invités à travailler. Voilà, je vous ai dit, le but de notre objectif, ce vers quoi nous tournons notre regard pour être actifs dans ce monde, travailler à un monde. Et Paul dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix et la joie, voilà. Donc c'est clair, bosser pour apporter de la paix et de la joie. Mais pas pour vous, hein. Le royaume de Dieu, c'est ce vers quoi nous travaillons pour que le monde le soit. Et donc oui, je veux travailler, moi, me mettre au service d'un monde dans lequel il puisse y avoir autant que possible de la paix et de la joie. Et le paradoxe de l'évangile, et je vais y revenir, c'est que en fait, quand on cherche à donner de la paix et de la joie pour le monde, c'est là qu'on la trouve pour soi-même. Mais en tout cas, le royaume de Dieu, c'est de donner de la paix et de donner de la joie. Donc pour ça que je m'égarais au début, je cherchais pour moi, je veux de la paix et de la joie. Non, c'est pas pour vous. Je vous l'ai dit dès le début, et ça, merci maman pour la bonne éducation, l'essentiel c'est le service, vous êtes là au service, donc ce que vous recevez, je m'en fiche. Donner de la paix et donner de la joie, ça c'est le royaume de Dieu. Et je reviens à mes béatitudes, là, vous savez, quand Jésus dit heureux, 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 et il dit pas heureux ceux à qui on fiche la paix, mais heureux ceux qui font la paix, heureux les artisans de paix, heureux les fabricants de paix. Et c'est pareil pour la joie, celui qui donne de la joie travaille pour la joie, a donné de la joie. Et paradoxalement, c'est là qu'il en reçoit aussi, mais ce n'est pas le but. Alors il en reçoit aussi, ça c'est vrai, c'est ce que dit aussi une des paroles de Jésus, qui n'est pas dans l'évangile, c'est dans les actes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, quand on donne de la joie, on est infiniment joyeux, c'est une chance. Et si on parvient à mettre de la paix dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, eh bien, on éprouve, je crois, enfin, en tout cas moi, une satisfaction profonde, une harmonie. Et donc voilà la promesse. Si vous vivez l'Évangile, si vous vivez votre vocation de chrétien, si vous travaillez à l'avancement de ce royaume de Dieu, ce royaume de paix et de joie, eh bien, vous en aurez de la paix et de la joie à revendre. Et en abondance. Mais avec ce paradoxe, effectivement, c'est que, je vous l'ai dit, la joie s'obtient quand on ne la cherche pas, mais quand on la donne, et la paix s'obtient quand on y travaille, et pas quand on la quête pour soi-même. Tout cela ne s'obtient que si on se tourne vers l'autre, et qu'on ne le cherche pas pour soi-même. Alors oui, je peux le dire, et c'est dit souvent dans l'Évangile, l'Évangile est un chemin de joie et de paix, très bien, c'est vrai, si vous vivez l'Évangile, vous trouverez dans votre vie beaucoup de joie et beaucoup de paix. Mais en même temps, si vous le faites pour ça, ça ne marchera pas. Donc c'est une sorte de paradoxe. Parce qu'on ne trouve la joie et la paix qu'à partir du moment où on renonce à la chercher pour soi-même. Et ça pour une raison très simple, qui est, je crois, le mot-clé de toute l'affaire. Et finalement, voilà, c'est par là que j'aurais dû commencer. Le mot-clé de tout cela, ça s'appelle la grâce. La grâce, encore un gros mot d'église, la grâce, ça veut dire ce qui est gratuit. Voilà, gratuit. La gratuité, c'est le mot-clé de tout. Et je crois que la grâce, c'est le premier mot de notre vie et le dernier. C'est ce à quoi, c'est ce qui nous fait vivre, et ce que nous sommes invités à vivre. Je crois que vraiment, ça c'est ma conviction, que tout ce qui est précieux dans la vie vient de la grâce, de ce qui est donné, de ce qui est donné sans attente, sans intérêt, la générosité, la présence de quelqu'un, d'un ami qui vous aide, qui vous soutient, qui vous parle, alors qu'il pourrait ne pas le faire. Tout ce qui est de l'ordre de la grâce, c'est franchement, moi, ce qui me donne envie de vivre. Et si on fait le bien pour être heureux, si on se dit « je vais essayer d'être chrétien pour trouver cette paix dont j'ai besoin », vous n'êtes plus dans la grâce, mais dans le calcul, dans le mérite. Et je crois qu'il n'y a aucune joie en dehors de la grâce. Parce que dès qu'on est dans le calcul, dans le mérite, dans ces choses-là, on n'est pas dans la paix, on est dans le jugement, dans la réclamation, dans la crainte et dans la jalousie. Ça ne mène à rien. La joie, c'est de s'émerveiller d'un cadeau. Et la joie et la paix, on ne peut que les avoir et ne même pas les chercher pour soi, mais on ne peut que vivre soi-même de générosité, de dons. Et la joie et la paix sont promis devant nous, mais on ne les trouve qu'à partir du moment où on ne les cherche même plus. Et puis vous disais-je, la grâce est aussi le premier mot de notre vie, parce que je ne peux être moi qu'un artisan de paix, un donneur de paix, ce que j'aimerais être, que si j'ai au moins un petit échantillon au fond de moi-même. C'est-à-dire celui qui n'a aucune joie dans sa vie et aucune paix, il va donner quoi? Il va emmerder le monde, pour tout vous dire. Et donc je pense que la joie et la paix et la grâce ne peuvent être que premiers dans notre vie. La grâce n'est pas un devoir, c'est pas de dire « tu dois donner ». Non, c'est pas possible ça. La grâce est une logique de vie. Et on ne peut donner de la joie et de la paix que si on en trouve, on ne peut être dans la grâce que si on se sent soi-même sous la grâce. Et donc je vous disais que c'est le point de départ. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est d'accepter un message de grâce, ce qui n'est pas si simple. Quand on nous rappelle sans arrêt au culte, vous êtes aimé, vous êtes accepté, vous êtes pardonné, acceptez d'être libéré et acceptez d'être heureux. Voilà. C'est important pour vous et c'est important pour les autres. Et si vous êtes heureux et en paix, vous ferez du bien aux autres aussi. Ce sera franchement, pour vous, ce sera déjà mieux, mais pour les autres, ça va tout changer. Hein. Enfin, ça va quand même être très, très, très agréable. Alors, c'est vrai que je disais parfois qu'il faut combattre dans ce monde matériel. Je ne renonce pas à ça, mais le combat, même le combat que l'on mène dans ce monde, ne peut être créateur, créatif et positif que si l'on a la paix au fond de soi-même. Tout combat que l'on ferait par ressentiment, par violence, par jalousie, par vengeance ou je ne sais quoi, c'est que du désordre, c'est que du mal. Mais si on a la paix au fond de soi-même et que vraiment, je combats parce qu'il y a des choses injustes et je lutte contre l'injustice, point. Et du coup, je pense qu'on peut faire les choses d'une façon plus positive. Mais donc, quand vous disais-je, finalement, je reviens, j'ai dit le contraire que tout à l'heure, je vous ai dit, ne vous sentez pas obligé d'être heureux, c'est vrai, mais là, ce que je vous dis, c'est que la joie et la paix, vous avez le devoir d'y bosser un peu, quoi. C'est un travail, là, oui, il y a un devoir. Essayez, être en joie et en paix, alors comment faire? Essayez au moins. Alors comment? Eh bien, par ces deux choses que je vous ai déjà évoquées, c'est d'abord peut-être la quête d'une joie et d'une paix intérieure. Ça, c'est tout le travail de la vie spirituelle, de la démarche intérieure. Bon, chacun suivant sa tradition, chrétienne, pas chrétienne, n'importe. Enfin, il y a des quêtes quand même, des moyens d'essayer de trouver un peu de paix au fond de soi-même. Donc, il y a un travail intérieur que l'on peut faire et auquel on peut se livrer si on en a le don, mais on peut le faire. Et ensuite, l'autre source, eh bien, c'est l'action, tout simplement. C'est l'action, je vous l'ai dit, c'est le service et c'est le don. Et donc, voilà, vivez concrètement l'Évangile et, sans le vouloir, mais vous trouverez, je crois, de la joie et de la paix. Et ça, c'est une sorte de devoir. Donc, mettez-vous au service, voilà. Au lieu de penser à vous, pensez aux autres et vous verrez, recette, miracle, vous aurez de la joie et de la paix. Parce que si au fond de moi, cette joie, j'arrive à avoir cette joie, cette confiance inaltérable, que quoi qu'il arrive, j'ai une joie qui m'est donnée, alors je n'ai plus peur de rien, alors je peux moi-même être source de joie et de paix, et cette joie, cette paix qui me sont données sont aussi objets de grâce, vous le disais-je. Je suis aimé. Dieu, avant même que je choisisse ou non de me mettre à son service, déjà, il me donne sa paix et sa joie, et alors je peux être moi-même un artisan de paix, un ouvrier de joie dans ce monde. Et je ne peux que conclure par cette belle bénédiction de Paul, encore dans sa lettre aux Romains, quand il dit, et je trouve que c'est tellement beau, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.